France Inter.
France Inter, journée spéciale smartphone, tous accro. Fabienne Sintès.
Je commence à vous connaître, ami auditeur du téléphone sonne. Quand vous avez entendu se lancer cette journée spéciale smartphone et surtout usage de nos smartphones, combien d'entre vous ont pensé, mais moi, je m'en passe très bien. J'en ai un, mais je ne m'en sers que pour téléphoner. Je suis capable de l'oublier sur une étagère pendant des heures. Je ne l'ai jamais sorti dans un restaurant. Et moi, dans les transports, madame, je lis. Je vous crois. Mais pour savoir si cette ouverture sur le monde qui tient dans notre poche fait de nous, en fait, des êtres parfois associables, limite impolis, curieux d'un chat qui fabrique son pain quelque part aux Philippines mais aveugle à ce qui se passe à 2 mètres de nous, pour savoir si c'est ça que nous sommes devenus et comment y remédier, ou si nous savons, avec un peu d'effort, tirer le meilleur de cet outil qui reste incroyable, je commence. J'avoue, je suis devenu incapable de regarder un film chez moi sans tapoter en même temps sur mon portable. Parfois même, je regarde comment se termine le film que je suis en train de regarder et je peux vous dire que ça rend mes proches hystériques. Je ne réponds plus jamais aux messages audio ou avec un énorme retard. Quand j'envoie un WhatsApp en revanche, je veux une réponse tout de suite et sournoisement, je connais la combine pour vérifier que mon interlocuteur a bien lu et reçu mon message et s'il ne m'a pas encore répondu, ça m'énerve. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai appelé mon coiffeur ou fait la queue pour une place de ciné. C'est une appli qui prend mes rendez-vous et mes billets. J'ai désinstallé l'appli d'un jeu ridicule parce que je me voyais devenir complètement accro. Moi qui ai dit en achetant mon premier Nokia en 98, de toute façon je téléphonerai jamais dans la rue, aujourd'hui je me fais violence pour laisser mon smartphone dans mon sac au lieu de le mettre sur la table du resto, sinon je suis tenté de scroller bêtement. Bon, et est-ce que j'ai déjà pris mon téléphone avec moi dans les toilettes? Ben évidemment, bien sûr. Parlons de nos usages ce soir les amis, de ce moment où le smartphone a cessé d'être juste un téléphone et de ce que nous en avons fait, de ce qui nous a à lui ou de ce qui nous enchaîne à lui. Est-ce que le vôtre vous relie aux autres? Est-ce qu'il vous isole? Parlons de nos combines pour le mettre à distance, pour faire de lui notre allié et pas un outil de notre aliénation. Est-ce qu'on peut être plus fort que notre smartphone? C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Yvon, bonsoir, c'est vous le premier, soyez le bienvenu.
Bonsoir, merci France Inter d'avoir sélectionné ma question. C'est une question un peu candide. J'utilise mon portable uniquement pour le téléphone et de temps en temps pour recevoir des SMS. Et la question que je me pose, c'est que, à l'opposé de l'immense totalité des Français qui apparemment sont accros, qu'est-ce que je perds de pas être sur des centaines de réseaux sociaux ou passer mes journées devant mon téléphone portable? Qu'est-ce que je perds par rapport à tous ces gens accros au téléphone portable?
Alors, je crois qu'il doit y avoir quelques distances, j'allais dire, entre quelques applis et des centaines, Yvon, mais on va y venir. Et merci beaucoup pour la jolie question, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Il y a Xavier Delaporte qui est avec nous. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Nouvel Obs, vous êtes producteur du podcast Le Code a changé sur France Inter. Il y a Nicolas Nova qui est là également. Bonsoir Monsieur Nova.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, professeur à la Haute École d'Art et de Design, c'est à Genève. Vous êtes cofondateur de Near Future Laboratory. Vous avez fait une grande enquête sur anthropologique, justement, sur nos usages, qui est fort passionnante. Qu'est-ce qu'on répond à Yvon, Xavier Delaporte? Qu'est-ce qu'il perd? Et d'abord, redire encore une fois, on n'est pas forcément sur des centaines de choses, on peut être aussi sur quelques petites choses, mais qu'est-ce qu'il perd?
Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que je me retrouve exactement dans la position inverse d'Yvon, parce que moi j'ai un téléphone qui ne téléphone plus. C'est-à-dire que mon smartphone
et
fait tout sauf téléphoner.
Ça vous manque pas, en fait.
C'est horriblement compliqué, mais ce qui est bizarre, c'est que je le garde comme ça. Alors pourquoi? C'est parce que moi, je profite de tout ce dont ne profite pas Yvon, c'est-à-dire je lis le journal, je travaille dans le métro, j'écoute des podcasts ou j'écoute en replay, je règle mes problèmes administratifs dans le métro aussi, je réserve mes places de cinéma comme vous le faites. Enfin, je fais tout ce genre de choses. Alors évidemment, ce qui se passe, c'est quand on ne sait pas ce qu'on rate, on ne le rate pas, enfin, d'une certaine manière. Voilà, c'est un vieux problème métaphysique, mais donc c'est compliqué à dire. C'est qu'on peut tout à fait très bien vivre sans téléphone portable et sans smartphone, ça c'est absolument évident. On peut tout à fait très bien vivre avec un smartphone en effectivement le maîtrisant, même si le terme est peut-être un peu compliqué. Et puis on peut être dans une position intermédiaire qui est de ne pas savoir bien comment faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il me semble que cette journée d'ailleurs est le signe de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un moment un peu compliqué, on ne sait pas très bien comment en faire. mais parce qu'aussi il y a eu des ruptures récentes qui ont été extrêmement violentes. Moi je pense que ce qui s'est passé après le Covid et notamment la migration de plein de rapports avec l'administration dans le téléphone, pas simplement l'administration mais aussi les banques, mais aussi d'autres institutions, a produit un effet très violent qui du coup rend le portable ou l'usage du smartphone quasiment obligatoire dans plein de phases de la vie. Et c'est un peu dans ce moment-là qu'on est et qui est du coup un moment très compliqué, je pense.
Nicolas Nova, est-ce qu'il ne doit pas se poser la question à l'envers, notre ami Yvon, en fait, au lieu de se dire qu'est-ce que je rate, si j'avais ça, c'est de se dire qu'est-ce qui me manque là et est-ce que je pourrais le trouver sur le téléphone ? Peut-être que c'est ça finalement le chemin le plus facile.
Oui, c'est une manière de reformuler, en fait, en se disant que peut-être c'est pas une question de rater, c'est une question de faire autrement. Avec d'autres manières de socialiser, d'autres manières de rencontrer des gens, d'autres manières de lire, de s'informer, enfin tout ce que Xavier Delaporte vient de décrire. Et finalement, il n'y a pas une seule manière de vivre le monde, de se socialiser ou d'interagir, sauf parfois quand on nous l'impose.
Ce que je veux dire, c'est que on a un peu le sentiment souvent, Nicolas Nova, en ce moment et dans ce genre de débat, que c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit j'en ai pas parce que je refuse, et de toute façon le reste rend accro et ça a l'air absolument terrible, soit je ne peux plus m'en passer. Et en fait, peut-être que le jeu de chacun d'entre nous, c'est précisément de trouver la voie intermédiaire, en fait.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et puis ce qui est assez fascinant, c'est qu'on ne sait pas trop, on n'apprend pas. C'est chacun un peu qui tâtonne dans son coin. Et puis par moments, on entend des discussions sur comment tu fais, est-ce que tu verrouilles à certains moments les notifications, est-ce que tu fais cela, quelle application tu utilises ou non. Et en fait, c'est assez fascinant de voir que cet objet qui est arrivé autour de 2007, hein, les iPhones notamment, on est toujours dans des phases un peu à réinterroger qu'est-ce que c'est que les normes de politesse, qu'est-ce que c'est que bien l'utiliser et chercher un entre-deux, parce que le tout ou rien, ils fonctionnent pas, en fait.
Et les normes de politesse, Xavier Delaporte, moi je trouve ça fascinant, elles ont évolué à un rythme effréné, enfin encore une fois, un téléphone sur une table quand on est au restaurant par exemple, ça choque pas grand monde, pour être tout à fait honnête, à une période ça nous aurait tous rendu complètement hystériques, enfin, on a aussi complètement changé nos limites et nos curseurs.
Ouais, et on est en train de les renégocier, en fait c'est ça qui est très intéressant, mais parce que Nicolas Nova a dit un truc qui est très très important, c'est qu'au fond, il n'y a pas de transmission possible de ces modes de politesse. Vous voyez, quand au début du XXe siècle, vous avez des manuels de politesse qui expliquaient comment on se comportait à table, et même d'ailleurs, il y a eu des manuels de politesse qui ont interrogé la question du téléphone filaire, à quelle heure il était poli d'appeler, combien on laissait d'appels dans le vide avant de considérer que la personne était absente, etc. Tout ça était codifié, tout ça, il se transmettait. J'imagine, Fabienne, que comme moi, vos parents vous ont dit, on n'appelle pas chez des gens à l'heure
après
du dîner, etc.
Absolument.
Mais vos parents, vous pouvez le dire.
Ouais.
Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme il y a des applis qui apparaissent et qu'à l'intérieur de chaque appli naissent des codes de politesse, des codes de conversation qui sont très différents et qui évoluent. C'est-à-dire, que, par exemple, quel temps vous laissez un vu, par exemple. Un vu, c'est quand on sait que la personne a vu le message, mais il n'y a pas encore répondu. Voilà. Au bout de combien de temps un vu est insultant ? Bon, en fait, tout ça, le problème, c'est qu'il y a un vu et après, il y a les remis qui ne sont pas les vus, parce que les remis, ça veut dire que le message a été remis, mais qu'il n'a pas été vu.
Absolument.
Voilà. Et donc, on peut être très énervé parce qu'il y a un remis. Ça veut dire que la personne ne s'intéresse pas à son téléphone, c'est très bizarre. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que tout ça, chaque plateforme arrive, invente sa codification, etc., et on ne peut pas la transmettre. C'est-à-dire que les parents ne peuvent pas dire ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et que tout ça s'élabore, mais ce qui est très très beau et vraiment très intéressant, c'est que malgré tout, s'élaborent des codes de politesse entre les gens. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, et on se met d'accord sans négociation, c'est ça ?
Alors, par exemple, ce qui ne se fait plus, Xavier Delaporte, parce que vous me faites rire avec votre téléphone qui ne téléphone plus, mais est-ce qu'aujourd'hui, comme nous, et surtout dans le travail, vous n'êtes pas du genre à envoyer d'abord un message en disant « je vous cherche, est-ce que je peux vous appeler ?» avant même d'appeler directement, comme s'il était devenu presque impoli de faire sonner le téléphone dans la poche de quelqu'un. Est-ce que vous avez ça, vous, ou pas ?
Mais totalement, mais d'ailleurs, c'est très... Au fond, on a mesuré nos usages du téléphone portable, je parle du téléphone qui appelle, vraiment, puisque souvenez-vous, quand on avait nos premiers Nokia à la fin des années 90, on appelait vraiment à n'importe quelle heure, et on s'estimait requis de répondre immédiatement. Et si vous ne répondiez pas immédiatement, vous étiez considéré comme impoli.
Ouais.
Aujourd'hui, par exemple, ça c'est un usage qui s'est, effectivement, comme vous le dites, on va commencer par envoyer un texto en disant à quelle heure je peux vous appeler,
exactement,
etc. Donc, c'est inscrit, une sorte de mode de politesse, de ne pas déranger. Vous voyez, donc il ne faut pas complètement désespérer. La politesse s'invente, elle s'invente aussi dans le respect du temps libre de l'autre, etc. Donc, il y a des choses qui se passent.
On va retourner à nos auditeurs, mais j'aimerais bien l'avis Nicolas Nora, de Monsieur l'Anthropologue, là-dessus. là-dessus et de la manière dont notre civilisation, au fond, bouge aussi dans ses codes et ses politesses autour de ce petit appareil qui tient dans notre poche.
Ben, c'est vrai que suivant les âges, les générations et puis les habitudes, il y a exactement ce que vient de dire Xavier Delaporte. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir aussi une espèce d'éloignement de la conversation en temps réel, en fait. Comme si téléphoner devenait une intrusion, il y a une espèce d'intermédiaire avec envoyer des messages vocaux les uns à la suite des autres, par exemple. Ce qui est quand même assez fascinant, c'est une espèce de dialogue audio, mais saccadé, en fait.
Alors on y reviendra parce que moi aussi ça me fascine littéralement, mais enfin je sais pas, peut-être que là du coup ça parle de vieillissement, non Nicolas Nova, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense qu'il n'y a pas forcément d'effet de génération, c'est plutôt des habitudes qui sont prises et puis qui se répandent comme une traînée de poudre en fait, mais qui interpelle sur qu'est-ce que c'est que la conversation. Il y a des anthropologues qui ont peur que ce soit la fin de la conversation. Moi je fais pas partie de ces gens-là, c'est juste une transformation en fait qui peut paraître évidemment choquante ou surprenante pour quelqu'un qui avait d'autres habitudes du téléphone il y a 50 ans, par exemple.
Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on signifie le téléphone portable, avant, on faisait comme ça avec la main, c'est-à-dire le pouce et le petit doigt, et puis un peu différemment aujourd'hui, quand on voit comment les gamins se trimballent dans la rue en faisant des notes vocales sur notes vocales, donc ils ont le téléphone mis complètement sur le côté, ce qui ne se faisait évidemment absolument jamais. Je voudrais qu'on écoute une note vocale, on va la découvrir ensemble, c'est celle de Carole.
Je suis la maman de deux adolescents, une jeune fille qui va bientôt avoir 16 ans et un garçon qui en aura bientôt 18. Le téléphone portable, c'est un fléau, un véritable fléau. Et je lutte contre ce fléau depuis des années, mais je maintiens quand même des règles qui sont évidemment trop strictes pour eux. Enfin, c'est leur point de vue. Mais dernièrement, on regardait leur temps de connexion journalier. Et c'est 5 à 6 heures. Le téléphone portable, c'est vrai que ça a rendu l'éducation encore plus difficile qu'elle ne l'était.
Et merci à Carole pour sa note vocale. Cette frayeur-là, Nicolas Nora, et le fait que les parents considèrent que c'est un fléau, évidemment que c'est compliqué pour les enfants. On a passé tout à l'heure un sujet en Chine où c'est bien pire, puisque là, c'est même au niveau du gouvernement qu'on essaye d'interdire un certain nombre de choses. Moi, je me suis demandé en fait s'il fallait, au fond, créer des règles collectives autour de cet appareil, ou si on mettait le pied dans un engrenage qui nous emmenait tout droit vers l'enfer.
Bah, c'est vrai que ça existe hein, dans certains contextes hein, de famille. Moi, je l'ai pu le voir dans des enquêtes ou dans des organisations, des entreprises, des règles qui sont proposées, pas forcément au niveau étatique, hein, parce qu'on pense tout de suite à ce niveau-là, mais il y a peut-être d'autres formes qui peuvent exister et qui, quand elles sont prises collectivement, sont pas forcément absurdes. Mais il y a un autre point qui me semble important de rappeler, c'est que c'est pas juste une affaire de d'enfants ou d'adolescents, parce que on voit aussi des enfants qui se plaignent de la manière dont leurs parents passent énormément de temps dessus.
Sur leur téléphone.
Et que, et que les usages, ils évoluent. Moi, j'aime bien, comme je suis aussi enseignant, je vois les vagues d'étudiants et différentes générations, et de voir certains qui, parce que dans les cours, je peux proposer des discussions, des débats sur ces enjeux, et des gens plutôt jeunes, une vingtaine d'années, qui me disaient, oui, mais moi, quand j'avais 14 ans, j'utilisais énormément, c'est plus mon cas aujourd'hui, j'ai appris. Donc il y a des formes, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais il y a aussi des formes d'apprentissage, des trajectoires, pour autant qu'elles sont encadrées, qu'elles sont prises collectivement. J'ai pu voir dans des colocations des groupes de gens plutôt jeunes qui décident entre eux, entre elles, en fait, de faire attention. Donc ça, c'est peut-être plus facile à petite échelle et dans des milieux qui sont peut-être attentifs à ce genre de choses, mais qui interpellent sur comment collectivement on peut faire cela à un niveau plus important.
Au fond, ce que ça dit Xavier Delaporte, la question de Nicolas Nova en creux, c'est est-ce qu'on peut être plus fort que notre smartphone, en fait ? Est-ce qu'on peut le battre ?
Mais je ne sais pas s'il s'agit d'être plus fort que son smartphone. Vous savez, il y a un philosophe très important dans l'histoire des technologies qui s'appelle Ivan Illich, qui est un philosophe français, et qui parle de technologie conviviale. Et une des conditions qu'il donne au fait qu'une technologie soit conviviale, c'est qu'elle ne fasse ni maître ni esclave. C'est-à-dire que il ne faut pas devenir esclave de son téléphone, mais il ne faut pas non plus que notre téléphone soit uniquement notre esclave. Parce que il n'y a pas de convivialité, il y a un rapport plutôt horizontale. Et je pense que l'idée qu'il faille maîtriser son téléphone, le voir comme quelque chose qu'il faut maîtriser, cacher, je pense que c'est pas comme ça que ça se joue. Après, par ailleurs, sur les règles, c'est une question qui est très importante parce que il y a une tendance et c'est nécessaire d'individualiser les règles. C'est-à-dire, évidemment, il faut soi-même trouver son bon usage, etc. On peut le faire en fermant son téléphone à quelques moments, en essayant de pas se mettre trop de notifications, etc. Bon, il y a une chose de l'éthique personnelle. Après, il y a des éthiques de groupe, dans la famille, dans l'entreprise, etc. Mais il faut pas oublier aussi que c'est un problème politique beaucoup plus large. C'est-à-dire que si on a une tentation à ouvrir son téléphone, enfin, à regarder son téléphone, etc., c'est parce qu'on pense y trouver quelque chose. Si on reste pendant des heures à scroller dans des réels d'Instagram ou sur TikTok, c'est parce que ces plateformes sont fabriquées.
Bah oui, mais on ne cherche rien. Ils font semblant de nous faire croire qu'on cherche quelque chose, mais on ne cherche rien là-dedans.
Et donc, la responsabilité, elle n'est pas simplement individuelle, elle n'est pas simplement collective entre humains, etc. Elle est dans le rapport que nous, usagers, nous avons avec les entreprises qui fabriquent à la fois ces téléphones, mais qui fabriquent aussi les plateformes dans lesquelles nous ébattons, les contenus, etc. Et la manière dont ils les amènent à nos téléphones. Je ne sais pas, il y a une question sur le nombre de notifications. Par exemple, on pourrait demander à une institution comme Radio France de ne pas mettre trop de notifications dans la journée. Ce genre de choses aussi peut se réguler. C'est une question aussi politique. Ce n'est pas simplement une question de responsabilité individuelle.
Nicolas Nova, vous voulez dire quelque chose? Ensuite, on retourne au standard. Allez-y, monsieur Nova.
Oui, y a un point aussi qui est important de rappeler, c'est que, je ne sais pas si c'est le cas des enfants de l'auditrice, c'est qu'il y a aussi une forme de, enfin, une question à se poser sur pourquoi des gens ont envie d'aller regarder des messages sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux ou d'autres contenus. C'est aussi peut-être que c'est leur manière d'interagir avec leur groupe, peut-être parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Enfin, il y a eu toutes sortes de travaux en anthropologie là-dessus, je pense notamment à Dana Boyd, une anthropologue américaine, qui expliquait la manière dont des enfants, notamment qui étaient de plus en plus cantonnés à leur chez eux, sans pouvoir, dans les banlieues américaines, sans pouvoir aller voir leurs amis parce qu'il faut une voiture, parce qu'il faut se déplacer longuement, la manière d'être avec les autres, c'était avec le smartphone. C'est pas forcément une réjouissance, mais c'est peut-être plus une envie d'être avec l'autre que pour les contenus qui seraient produits par des êtres humains, évidemment.
Bonsoir Régis.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Régis, allez-y.
Oui, alors moi j'ai 50 ans et j'utilise le smartphone depuis assez peu finalement dans mon histoire de l'usage du téléphone. Mais en fait, moi je trouve que c'est un outil qui peut s'avérer génial si on l'utilise correctement. Par exemple, moi je l'utilise beaucoup pour écouter de la musique dans un appareil petit et qui permet d'accéder à ça et aussi à une ouverture sur le monde. Il y a des podcasts qui sont ultra intéressants et je salue Xavier Delaporte dont je suis fan de son podcast Le Code a changé et en rentrant du travail j'écoutais sur mon vélo, alors je sais qu'on ne va pas le faire mais j'ai un casque extra auriculaire donc j'entends encore le bruit des et je viens de finir Outside Kaboul et en fait c'est génial parce que ça fait réfléchir sur plein de choses de la vie. Et avant, on n'avait pas ça, en fait. C'était que par les émissions de télé où fallait faire des efforts d'aller rechercher. Et je trouve que quand il est bien utilisé, en fait, ça peut être un outil super génial d'avoir un ordinateur dans sa poche pour aller faire des recherches. Et voilà, donc oui, il faut faire attention de ne pas être esclave de ça, mais bien utilisé, ça peut être un outil formidable.
Merci beaucoup, Régis. Merci vraiment. Très bon choix de podcast.
Régis
a très bon goût et continue à le faire. Après, moi, ce que je trouve intéressant, Xavier Delaporte, on posera la question à Nicolas Nova aussi, c'est que c'est pas tant que c'est une question de génération, mais on a l'impression, au fond, qu'à chaque fois qu'il y a eu une avancée technologique majeure, de toute façon, on allait perdre quelque chose derrière. Y compris quand la télé est arrivée, on n'allait plus jamais aller dans les bars, on n'allait plus jamais parler entre nous, etc. Enfin, tout ça a disparu. Et c'est pas vrai. Ça n'a jamais disparu. Je repense encore à notre auditrice, je pense à Régis là par exemple, qui a un usage tel qu'il le fait, qui est un usage pensé, mais je pense même aux enfants de notre auditrice. C'est vrai que nous, on a la tentation de l'interdire aux enfants mais communiquer autrement. Sauf que c'est leur manière de communiquer à eux aujourd'hui et notre manière à nous était différente avant.
Enfin, encore une fois, on fait partie d'une génération où nos parents ne comprenaient pas pourquoi en sortant du collège ou du lycée, on occupait la ligne téléphonique familiale pendant une heure et demie pour parler avec le copain ou la copine avec lequel on avait passé la journée.
Ouais.
Là, bon, voilà, c'était un problème familial. Aujourd'hui, effectivement, les parents ont du mal à comprendre pourquoi des enfants continuent toute la journée, toute la soirée à interagir et considèrent hyper urgent de répondre à un message WhatsApp qu'ils viennent de recevoir alors qu'ils vont mettre 3h30 à répondre à un texto que vous leur avez envoyé dans la journée pour un truc qui était vraiment urgent. Effectivement, donc ça, c'est des questions de temporalité et puis aussi d'espace privé, etc. C'est que, effectivement, et ça, Dana Boyd, que citait tout à l'heure Nicolas, l'a très très bien montré, c'est qu'aussi les ados, etc., recréent sur leur téléphone des espaces privés au sein de l'espace un peu public ou semi-privé qui est une famille. Voilà, et que, bon, bah, quand on est ado, c'est comme une chambre. Enfin, voilà, il y a la chambre et puis il y a le téléphone dans lequel se passe toute une vie privée. Et c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas non plus. Ce qui est compliqué, c'est que moi, je peux défendre ce discours-là de compréhension, de dire voilà, il faut savoir ce que font les ados, qu'après tout, on pense qu'ils ne font que des choses bêtes. Puis en fait, sur leur téléphone, il y a aussi, ils s'échangent des cours, ils bossent aussi sur leur téléphone. Mais en même temps, on ne peut pas non plus passer le fait que c'était exaspérant d'avoir son ado tout le temps avec son téléphone dans la main. C'était exaspérant. Bon, voilà. Donc, il faut faire à la fois, je pense que cette exaspération, elle est bonne d'un côté, enfin il faut la ressentir, il faut la faire ressentir aussi à l'adolescent sans doute, et en même temps il faut aussi faire un effort de compréhension que se passe à l'intérieur de ce téléphone plein de choses et des choses qui sont essentielles pour lui ou pour elle vraiment, enfin voilà, parce que la sociabilité, l'apprentissage de la sociabilité, c'est énorme dans l'adolescence et ça se passe énormément dans le téléphone, voilà, sauf qu'on ne sait pas comment ça se passe.
Laurence est là, bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Laurence, on vous a fait patienter longtemps, pardon.
Oh, c'est pas grave. Je travaille dans un CFA avec des apprentis et nous, en fait, c'est des jeunes qui sortent du collège et quand ils arrivent au CFA, ben, ils ont un peu d'argent parce qu'ils travaillent, ils sont en apprentissage, donc un peu en entreprise, un peu à l'école. Et en fait, à l'école, ben, clairement, ils aiment pas et ils ont tendance à être sur leur téléphone. Donc, en fait, nous, on a mis en place un système avec des boîtes pour ramasser les portables en début de cours parce que, en fait, sinon, on peut pas faire cours. Ils regardent des vidéos et voilà, quoi. Et ils gèrent pas du tout. Le collège, ils avaient zéro droit au portable. Et là, ils arrivent dans la vie active, semi-professionnelle. Mmh. On a des patrons qui râlent parce qu'en fait, les gamins arrivent et ne veulent pas bosser. Ils sont tout le temps sur leur portable. Mmh. Donc voilà, c'est un vrai problème pour nous. Et nous, on l'a résolu en confisquant les portables en début de cours.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Laurence, Nicolas Nova. Quand il le faut, il faut inventer des stratégies de contournement, c'est ça que ça veut dire en fait.
Oui, et puis alors ça se cantonne pas à ce genre de formation.
Je peux voir ça
aussi dans d'autres contextes d'études supérieures et pas uniquement avec les élèves d'ailleurs, ça peut être aussi avec les enseignants. Alors oui, effectivement, il y a peut-être on peut se dire après aux grands mots les grands remèdes, je vais pas juger, mais il est certain que surtout dans les phases d'apprentissage de ce que sont les normes sociales dans le monde du travail, dans le monde de l'éducation, où il faut une forme soit d'attention à l'autre, soit pour certaines tâches, d'attention un peu profonde, il y a des manières de faire, mais qui, dans certains contextes, s'élaborent. Ça revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Ça peut s'élaborer de manière collective, en faisant en sorte que tout le monde, dans la même pièce, soit logé à la même enseigne, qu'il y ait une réflexion peut-être plus générale sur la place des technologies ensemble, mais en tout cas, dans des phases où on est plus jeune, ça, c'est important pour après.
Et vous le disiez, on parle des plus jeunes, mais c'est vraiment le cas aussi des plus vieux. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous racontent ici, notamment sur le fil WhatsApp, jusqu'à quel point parler à son patron qui est en train de tapoter sur son téléphone, on a envie là aussi de lui prendre son téléphone, de le balancer à la poubelle, etc. Cette politesse-là n'atteint pas le nombre des années. Bonsoir Camille.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Camille.
Alors, en fait, effectivement, moi, j'avais remarqué que dès qu'on s'ennuie un peu, on saute sur son téléphone. Donc, pour éviter ça, moi, j'ai eu recours à deux techniques. J'ai désactivé absolument toutes les notifications, même celles de l'application Radio France, j'avoue. Toutes les notifications.
Eh ben, bravo.
Donc, j'ai vraiment désactivé toutes les notifications. Donc, c'est moi qui décide quand j'y vais. Et surtout, je désinstalle, carrément, je désinstalle tous les jours les réseaux sociaux. Alors, j'ai que Facebook et après, j'ai des applis de rencontre, mais je les désinstalle. Et je les réinstalle une heure le soir pour aller les consulter, mais j'ai trouvé que c'était...
Ah oui, vous désinstallez et vous réinstallez régulièrement, vous?
Voilà, tous les jours,
je ne peux pas avoir la tentation.
Bah voilà, comme ça, et assez radical, parce que...
Oui.
En fait, il faut réfléchir à deux fois, réinstaller l'application. On ne le fait pas comme ça, quoi. Donc, c'est un peu radical, mais moi, je pense qu'il faut créer comme ça une contrainte, en fait. Sinon, c'est un automatisme, ça devient un automatisme.
Eh ben, dites-moi, merci beaucoup, Camille. On parle de notre gestion de nos portables et la manière dont nous vivons avec lui dans le téléphone sonne avec Xavier Delaporte, qui est journaliste au Nouvel Obs et producteur aussi du Code à changer, le podcast sur France Inter, avec Nicolas Nova, qui est anthropologue. Sur ce que vient de nous dire Camille, Nicolas Nova, moi, ce que je trouve fou, et en même temps, on est tous un peu pareil, hein, moi, j'ai désinstallé des jeux, par exemple, en me disant, sinon, tu vas devenir dingue, c'est qu'en fait, il faut se faire violence, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Il faut qu'on se fasse violence, il faut qu'on s'impose quelque chose. Ça vient pas naturellement. C'est pas comme se dire je vais laisser le paquet de gâteaux dans la boîte, je mangerai le reste demain. Il faut y aller beaucoup plus fort avec ton téléphone, visiblement.
Alors, je nuancerai un peu cette affirmation parce que ça, au début, il y a de cela. Hein. Moi, je l'ai vu dans des enquêtes, des personnes qui me disent ah oui, je me suis fait violence, j'ai enlevé ça, mais qui, au bout d'un moment, même s'il y a un côté assez coûteux de faire ce qui vient d'être décrit, ça devient aussi des habitudes, des automatismes, et j'aime bien observer dans des conversations des personnes qui reprennent ça comme tactique personnelle, comme astuce. Ah bah tiens, je vais faire pareil. Et la façon dont ça circule. Me fait penser au fait que c'est pas, enfin, ça peut être aussi attendu en fait, et ça peut être, il y a peut-être une demande en fait de faire cela et pas juste d'être tout seul, toute seule dans son coin à réfléchir à ça. Et au final, enfin, il y a une espèce de construction, une évolution avec le temps, avec des gens qui, enfin, on le voit par exemple typiquement le nombre d'applications sur les téléphones par rapport au début de la possession d'un smartphone a diminué en fait et qui tourne autour. J'ai plus les statistiques en tête, mais c'est beaucoup moins d'une dizaine utilisée fréquemment. Et c'est pas forcément, quand on voit dans les entretiens, on voit que c'est pas forcément un effort, en fait. Hein. Et donc ça se construit, ça évolue, pour autant qu'on en soit conscient. Et pour revenir à ce que disait Xavier Delaporte tout à l'heure, c'est parfois un peu délicat, parce que ça met le poids sur la personne, l'individu, alors que tout ça devrait relever des décisions peut-être plus collectives, pas nécessairement au niveau étatique, mais à d'autres échelles.
Mais quand je dis faire violence, Xavier Delaporte, ça veut dire effectivement que au fond, on désinstalle, quoi. Donc on se fait pas confiance pour ne pas y aller, donc on désinstalle, c'est aussi ça que ça veut dire.
Ouais, mais je trouve que violence, c'est un peu dur, parce que on a tendance à parler d'addiction. Moi, je pense que c'est un terme un peu compliqué. Je suis pas sûr que ce soit le terme adéquat, mais ne serait-ce que parce que quand même désinstaller une application.
Nicolas Nova non plus, d'ailleurs, il parle de compulsion. Oui, c'est autre chose.
Mais désinstaller une application, c'est pas comme arrêter de cloper, quoi. Vous voyez,
en termes de coût, c'est plus facile.
C'est plus facile. Ouais. Donc, je pense que le terme violence, il est un peu difficile. Okay. Mais je peux juste revenir sur un truc qu'a dit Camille, qui était très joli, qui est la question de l'ennui. Parce que effectivement, on voit bien que l'usage du coup un peu compulsif du téléphone, il s'insère aussi dans des moments creux. Dans une file d'attente, dans le métro, moi je pense que c'est moins la question de l'ennui qui est intéressante, enfin qui est intéressante, ce qu'on perd, disons, c'est la contemplation. Ça, pour le coup,
on discutait pas forcément avec nos voisins, non. On n'est pas des Américains, hein, donc on le faisait pas forcément. On ne faisait rien, mais on était plus contemplatif.
Voilà, ça je pense qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la contemplation. Par exemple, attendre à une terrasse de café, quand on est ponctuel, c'est quelque chose qui arrive souvent dans la vie.
Regarder passer les gens.
Voilà, on regardait passer les gens. Quand on était dans une file d'attente, on écoutait les conversations qui étaient autour. Donc ces moments-là, qui étaient des moments un peu gratuits, d'ouverture un peu gratuite, ces moments ont tendance à disparaître. Bon. Après, est-ce que, sur la question de l'ennui, ce qui est intéressant, c'est que, alors effectivement, on essaie de combler l'ennui par le téléphone. En même temps, moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de constater qu'on s'ennuie avec nos téléphones. Ça, je pense, c'est un truc qu'on dit jamais. On s'y ennuie beaucoup. On s'y ennuie beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que si les plateformes et si toutes les grandes entreprises qui créent des réseaux sociaux, etc., sont si soucieuses de trouver des moyens de nous faire réagir, quitte à créer des algos qui mettent en avant les contenus qui font le plus réagir, donc les plus clivants, donc les plus violents, donc les plus abaissants, etc., c'est parce qu'elles savent très bien que le risque est toujours que la personne s'ennuie.
Mais alors quand même, je voudrais vous soumettre ce message de Béa sur WhatsApp et qui dit « Moi, je trouve que c'est une mise en abîme de dingue. Personnellement, j'utilise une appli qui m'empêche d'aller sur certaines applis après une certaine heure. » Et là, je pense qu'on est quand même, on a fait le tour là.
Ouais. Alors ça, c'est un énorme problème de la technologie, c'est que la technologie crée le besoin de technologie. C'est-à-dire que vous avez effectivement une technologie, et il y a besoin d'un outil pour réguler la technologie. Ça, c'est un truc très très bizarre.
Et même pour s'empêcher d'aller sur la technologie. Enfin, je veux dire, à un moment, là, on est un peu, enfin, on devient un petit peu fou, quoi.
Je sais pas si on devient fou, mais en même temps, c'est pas inintéressant que des gens qui sont, parce que ceux qui les fabriquent ces applis, c'est des gens qui pourraient fabriquer des applis qui sont ultra addictives et qui en fait réfléchissent à créer des outils. Alors peut-être pour des raisons qui sont des raisons financières aussi. Bon, mais après tout, il y a peut-être pas de mauvais mobiles en l'occurrence. Et voilà, qui participent à une réflexion collective sur comment on peut réguler un peu son propre rapport au téléphone. Donc pourquoi pas, à la limite.
Une note vocale, c'est celle de Noé. Bonsoir. Pas bonsoir, on l'écoute, la note vocale de Noé.
Bonjour à vous, moi j'ai 25 ans et je voulais réagir par rapport au temps d'écran sur les applications comme Instagram ou Facebook, notamment les réels. Je pense que les applications devraient instaurer une sorte de fonction qu'on active ou pas si on veut voir les réels. Parce que les réels, ça joue vraiment sur le circuit de la dopamine. Et du coup, il faudrait avoir une option pour les activer ou les désactiver. Voilà, merci, bonne soirée.
Et merci à Noé pour sa note vocale. Et effectivement, les réels, c'est ce qui peut nous faire scroller.
C'est le diable.
Et voilà, et nous vider le cerveau et voir des gens. Enfin, moi, je connais une personne qui travaille dans cette émission qui voit des gens tomber des falaises. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais qui reste quand même pendant des heures. Charge pour les applis.
Là, vraiment, je pourrais trouver aucun argument pour défendre les réels. C'est vraiment atroce.
Moi non plus, bon. Mais je me suis retrouvé comme nous tous dans cette situation. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? Ça fait une heure et demie que je regarde ces trucs-là.
Alors après, il y a une chose qui est intéressante sur les réels, parce qu'effectivement, le truc fou des réels, c'est qu'on peut en voir pendant deux heures, et si après, on vous dit qu'est-ce que tu as vu, vous êtes incapable d'en citer un.
Absolument.
Ça, c'est quand même, il y a un truc cognitif là qui est bon. Je sais pas qui travaille sur les réels aujourd'hui, du point de vue, je sais pas, des neurosciences, etc., mais ce serait intéressant d'avoir des résultats.
Le diable.
Le diable, sans doute. Il doit se réjouir, le diable. Mais il y a une chose intéressante sur les réels. C'est qu'en fait, on n'est pas non plus complètement passif avec les réels. Parce que, on sait très bien, parce qu'on n'est pas complètement débile non plus, on sait très bien que selon le temps qu'on passe sur un réel, si on le revoit par exemple, etc., on va du coup, puisque l'algo de recommandation des réels va prendre en considération le temps qu'on a passé, la réaction qu'on a éventuellement si on like, etc.
Et vous proposez à l'instant, mais est-ce que tu as vraiment bien expliqué les réels? C'est des mini vidéos en fait pour aller très très vite.
Voilà, c'est ça.
Qu'on voit sur Instagram et qui s'enchaînent tout le temps.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous propose des trucs au début un peu assez larges, et puis au fur et à mesure, on essaye selon vos réactions, le temps que vous y passez, etc., d'affiner pour aller vers les choses. Donc si vous commencez à regarder pas mal des trucs de foot, à revoir des vidéos de foot, on va vous proposer.
Et selon le temps qu'on y passe, Xavier, c'est 3 secondes hein, par ailleurs.
Ah oui.
Il faut surtout pas s'attarder parce que sinon après, l'algorithme devient fou et vous voyez des vidéos de football de toute la journée.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, je pense que les gens aussi jouent avec l'algo. Vous voyez, parce qu'il y a un truc qui est rigolo avec les réels, c'est de s'amuser à configurer l'algo pour par exemple, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ne voir que des vidéos de foot ou ne voir que certains types de vidéos. Et j'en parlais avec un copain qui bosse sur TikTok. Moi, je pensais être super malin en faisant ça, vous voyez, en essayant de m'amuser avec l'algo pour le configurer. Et en fait, vraisemblablement, c'est un souci aussi de ces plateformes, parce que les gens jouent en configurant leur algorithme, vous voyez, pour avoir pas forcément des choses qu'ils désirent, mais pour faire des sortes d'expériences. Il y a aussi ça, et je pense qu'il ne faut pas non plus complètement mépriser le fait que les gens ne sont pas si passifs.
Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut être plus fort que son smartphone, par exemple, c'est une manière d'être plus fort que lui en déjouant
C'est s'amuser avec lui.
En tout
c'est
cas, de l'appli et de l'algorithme. Voici Fabien qui est en Bretagne. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir, merci de prendre mon appel. Alors, moi, je voulais revenir sur le rôle de l'État. Alors, d'après ce que j'ai entendu, il semblerait que on ne soit pas favorable, d'après les propos que j'ai entendus, à ce que l'État intervienne de façon forte dans le domaine de la régulation des smartphones. Je vais faire un autre son de cloche. Je suis enseignant, je vois les ravages que provoquent les écrans. Alors, pas seulement, mais beaucoup les écrans sur les capacités de concentration, d'attention chez les enfants. Donc moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités et tout simplement interdire les smartphones jusqu'à un certain âge, 15 ans. Il y a quelques décennies, l'alcool, le tabac étaient consommés par les adolescents. Aujourd'hui, c'est impensable. Je ne doute pas que d'ici quelques années, les smartphones seront perçus au même titre que l'alcool et le tabac. Et je ne vois pas, aujourd'hui, personne ne reviendrait sur cette réglementation. Donc voilà, je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux à ce que l'État intervienne de façon très nette, très forte dans ce domaine. Ça aiderait énormément les parents. Il y a eu beaucoup de témoignages ce soir pour dire à quel point c'était très dur pour eux d'interdire le portable. Je pense que si l'État prenait ses responsabilités et interdisait les smartphones, par exemple jusqu'à l'âge de 15 ans...
Moi, je ne sais pas très bien, Fabien, excusez-moi, comment l'État peut être plus fort que les parents quand il s'agit d'interdire un smartphone ?
Alors évidemment, on va pas installer des caméras dans les, mais n'empêche que ce serait une mesure symbolique, enfin plus que symbolique d'ailleurs, parce que déjà d'une part, il ne pourrait pas l'utiliser dans l'espace public, d'une part, jusqu'à 15 ans, et d'autre part, évidemment, comme je l'ai dit, ça aiderait énormément les parents en disant tu n'as pas 15 ans, tu ne peux pas utiliser de téléphone portable, parce que évidemment, il y a dans certaines familles cela se produirait. Mais je pense que dans beaucoup de familles, en tout cas de plus en plus, mais c'est exactement le même processus qui s'est passé avec l'alcool. L'alcool était donné aux adolescents, aux enfants par le passé. Et ça s'est produit progressivement, ça s'est éliminé. On ne peut pas savoir si les parents donnent de l'alcool à leurs enfants chez eux, bien entendu. On ne va pas surveiller, on ne va pas mettre en place une Stasi. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on sait que dans l'immense majorité des familles, on ne donne pas d'alcool aux enfants. Je pense qu'on peut faire la même chose.
Merci beaucoup Fabien. Nicolas Nova, monsieur l'anthropologue, j'aimerais votre avis sur la suggestion de Fabien.
Moi, je ne suis pas un spécialiste de la régulation, mais quand je parlais de...
Et sur l'idée d'une régulation d'État, d'une suprarégulation.
Pourquoi pas? Je soulignais plutôt que ça peut se produire à toutes sortes d'échelles. En fait, celle étatique peut être intéressante dans certains contextes. Après, l'analogie, le contexte comme l'école, notamment. Après, l'analogie avec l'alcool est un peu délicate parce que il y a aussi des aspects, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peuvent être pertinents. Il y a des usages éducatifs et pédagogiques du smartphone. Mais dans quel contexte? Comment on trouve un équilibre? Évidemment, ça c'est compliqué. Je suis pas du tout complètement opposé à la régulation d'État. C'est juste qu'il y a peut-être un éventail un peu plus large, parce que si on attend la régulation d'État, je pense qu'on va attendre un moment.
Et en effet, oui, on attendra probablement un moment une régulation d'État, Xavier Delaporte, ça vous fait bondir ou pas ?
Moi, ce qui me... je pense que c'est... Je pense que ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, les mêmes qui disent qu'il faudrait interdire le smartphone aux enfants de moins de 15 ans sont très contents de pouvoir avoir avec leur enfant, quand il arrive en 6e, par exemple, laisser un peu s'émanciper, parce que c'est plus facile de laisser s'émanciper, c'est-à-dire faire des trajets tout seul, etc. Un enfant, quand on sait qu'on peut le joindre assez facilement, que s'il aura un problème, il se joint, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a aussi un usage émancipateur du téléphone portable, et qu'en fait, là où ça devient intéressant, c'est quel téléphone on donne du coup à son enfant, c'est-à-dire quel compte téléphone on donne, qu'est-ce qu'on autorise comme type d'application ou pas, etc. Moi, je pense que ça se joue plus dans le détail, c'est-à-dire une intervention massive, et à mon avis, du coup, c'est tout azimut, c'est pas très intéressant. En revanche, aller regarder, faire pression sur les plateformes, encore une fois, pour qu'elles soient interdites, certaines, vraiment interdites aux enfants de moins de 13 ans, certains réseaux sociaux, certaines pratiques, etc., ça me semble plus intéressant.
Après, ce sera, rapidement, pardon, dernière intervention, Xavier Delaporte. Moi, dans l'un de vos derniers podcasts, Le Code a changé, il y a votre fameux tonton Jean-François qui est génial et qui n'a pas de portable du tout. C'est un monsieur qui a 80 ans, qui a une vraie personnalité. Donc, on n'est évidemment pas dans quelqu'un qui est dans une vie professionnelle. Mais il y a quand même une chose. Moi, une question qui m'a laissé en suspens, c'est à un moment, il dit, mais à quoi ça vous sert de tout savoir en temps réel et immédiatement, et surtout, à quoi ça vous sert de tout savoir? Et moi, j'ai trouvé que cette question était géniale, en fait. Parce que c'est effectivement la seule qu'on peut même se poser, nous tous, y compris dans notre vrai usage, dans notre usage professionnel. Au fond, à quoi ça nous sert de le savoir dans la seconde, maintenant, en temps réel?
C'est sûr qu'il y a un paradoxe incroyable qui est qu'on a, pour le coup, à disposition, dans la main, un accès à une partie immense du savoir universel, à d'un nombre de livres absolument incroyables, à des morceaux de musique, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une insomnie? On regarde des réels débiles pendant une heure et demie. Ça, c'est sûr que c'est un paradoxe. Et pourtant, on a envie, on a besoin de l'idée d'avoir à disposition ce savoir. Et là, c'est vrai qu'en l'occurrence, Jean-François soulevait un paradoxe extraordinaire et qui ne donne pas la meilleure image de l'humanité.
Je renvoie vraiment les gens vers votre podcast. Je vais vous laisser avec deux petits messages sur WhatsApp. C'est celui de François d'abord qui dit « Je suis désolé, mais vos intervenants sont vraiment très bienveillants avec les smartphones. Ces objets sont horribles et je les déteste. » Et nous avons aussi protégé les enfants et les grands des dérives du numérique. Oui, interdire, je ne crois pas, c'est un monde nouveau à explorer. Laisser les enfants explorer. Moi, quand j'étais gamin, on nous laissait explorer le monde sans peur. Et finalement, on a appris plein de choses. Et celui qui nous dit ça s'appelle Thierry. Figurez-vous que c'est le papa de Squeezie, le youtubeur français. Voilà. Et c'est aussi et je vous rappelle aussi la une du Nouvel Obs. Tiens, sommes-nous tous devenus plus bêtes? On verra si on est moins bêtes aussi en le lisant. Et c'est grâce à vous, Xavier Delaporte. Merci.